L'homme qui a vu l'homme qui a vu l'eau, parce que c'est un ours qu'on vient d'entendre là. François Vincent de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante est au bout du fil dans un 5 à 7 de vaccination. Salut!
Ouais, c'est ça, je suis sur le terrain actuellement en direct.
C'est bon ça!
Avec mon kit, j'ai été pris dans du trafic intense sur la 40.
Oh.
Ça a comme complètement basculé mon horaire. Je suis vraiment désolé.
Ben, c'est correct d'entendre un petit bruit de fond une fois de temps en temps. Je dirais même que ça nous en prendrait plus souvent. Mais c'est ça, t'es vraiment dans un centre de vaccination. Pas pour.
Ben, ils sont à l'école de mon fils aujourd'hui. Voilà. Jusqu'à 18h. Okay. On pensait qu'on arriverait à temps et tout. Puis finalement, là, il y a de la paperasse partout, hein?
Ah ouais? Ils t'ont fait signer des décharges, quoi?
Non, mais c'est question usuelle quand on a un vaccin, là.
Ouais, ouais.
Tu nous supprimes, tu t'es vacciné récemment, tu es allergique à quelque chose, etc.
As-tu des caillots aux deux semaines d'avance, là? Sinon, on va te laisser tranquille pour pas que ça fasse des spins de gars qui savent pas écrire le français. Ah! C'est les internets. On parle d'études sur le salaire minimum à 18 $ de l'heure menées par la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante ensemble. Bien curieux de t'entendre. J'ai pas l'impression que tes membres au Québec ni ailleurs au Canada sont très chauds à l'idée.
Ben non. Puis je suis content d'en parler avec vous autres, hein, parce que c'est comme s'il y avait un certain walk in the park. Dis-moi l'expression. Hein, je me rappelle, c'est Pierre Rinfret qui avait dit ça à un moment donné à 110% quand Canadien jouait contre les 15. On s'était fait sortir en 6. Mais c'est un walk in the park du côté syndical qui propose une augmentation de 10 $ du salaire minimum.
Ah oui.
Ça n'a aucun sens.
Ben, je suis pas sûr qu'ils veulent vraiment non plus. Puis ils l'ont jamais. Hein. C'est une demande qui revient régulièrement et qui est refusée à chaque fois. À un moment donné, il va falloir qu'on comprenne que c'est un peu ridicule cette histoire-là. Puis ils perdraient des membres au bout de la ligne. C'est ce que ça a donné à bien des occasions, des augmentations de salaire minimum fulgurantes. Là. Si tu augmentes modérément, ça peut aller. Mais au bout de la ligne, ils seraient perdants, eux autres, avec les syndicats.
C'est juste le gros bon. Ben, puis la classe moyenne serait perdante aussi. C'est juste le gros bon sens. On parle pas de mettre des lunettes roses. Là. On met de mettre des œillères et de mettre des caches yeux qu'on met dans l'avion pour être capable de dormir. Là, c'est impossible que si on augmente de 33% le poste budgétaire le plus important de l'entreprise, que ça ne vient pas sans impact. Impossible.
Non.
Il y a plusieurs impacts. On a fait une étude pour, dans le fond, ramener un peu d'équilibre dans ce débat, démontrer que c'est pas vrai que ça se faisait sans conséquence pour les PME, sans conséquence pour l'économie, même sans conséquence sur les travailleurs. Parler d'une des conséquences, l'effet domino. Admettons, là, comme la moitié des entreprises au Québec qui ont moins de 5 employés, j'en ai un, mettons, un étudiant qui travaille à temps partiel chez nous,
ouais,
au salaire minimum, puis je vais avoir 3 autres employés qui sont là depuis plus de 10 ans, puis le propriétaire de l'entreprise, donc ça fait 5. Employés au total. Mettons, là, les 3 employés gagnent au-dessus de 22 $ de l'heure. La moyenne des PME, leur salaire, c'est 22 $ de l'heure. Ça fait 10 ans qu'ils sont là. Là, il y a un des étudiants qui rentre, puis du jour au lendemain, il y a 33% d'augmentation. Qu'est-ce qu'ils vont demander, les autres employés? Ils vont demander d'avoir une augmentation similaire.
Voilà.
Si je l'offre pas, je fais, qu'est-ce qui se passe? Ben, diminution du pouvoir d'achat, démobilisation des employés. C'est complètement...
Les normes du travail sont déjà extrêmement évasives ici et ça n'a jamais porté fruit. C'est à croire qu'il y a une couchette qui se passe, je pense en sniffant de chemtrail 2 secondes, mais sérieux, c'est pas productif pour les employés au final, ce genre de vision en silo-là. Ça serait quoi de décloisonner la rémunération, d'envisager qu'on puisse abandonner... Ou en tout cas, qu'on ait le droit de payer nos employés autrement qu'avec du salaire horaire tout le temps, puis de générer plus de bonus au bout de la ligne, vraiment sur de la performance. C'est très difficile ici de procéder de même.
Oui, c'est sûr. Puis un autre impact à mentionner, augmentation des prix fulgurantes.
Ouais.
Le tiers des PME qui disent ça, c'est un peu normal.
Pour lutter contre l'inflation... Générons donc de l'inflation.
Ben,
hey, on
n'est
pas dans le désert à boire du thé, là, la chaleur par la chaleur. Fuck off. C'est de la merde.
Qu'est-ce qu'on fait de nos aînés là-dedans, là? sais, ceux qui sont à la retraite, là, les autres, ils perdent, ils vont peut-être, avec l'inflation comme ça, ils vont juste ramasser, on va appauvrir nos aides.
Mais c'est clair, c'est ça l'inflation.
On va appauvrir ceux qui ont bâti le Québec.
L'inflation, ça appauvrit les plus pauvres automatiquement. Là, tu veux une mesure qui, supposément pour la contrée, l'augmente. T'es un capoté. Enlève de l'impôt. Un des plus grands vecteurs d'inflation au Québec, c'est le gouvernement. Décrasse un peu, puis ça va aider tout le monde. Mais non, pas capable d'envisager ça. Juste pour une question, il n'y a pas d'autre raison d'intérêt politique parce que c'est rendu qu'il y a un ménage sur deux qu'il y a un membre qui travaille pour le gouvernement.
Puis c'est tellement vrai, la meilleure façon de leur donner la possibilité d'augmenter les salaires, c'est de baisser les taxes. Puis ils augmentent déjà les salaires. Hein? Le baromètre des affaires démontre que dans l'histoire du baromètre des affaires, depuis 2009, là, l'indication mensuelle là, économique, il n'y a jamais eu une augmentation, une prévision d'augmentation salariale aussi grande que ça. Donc la pénurie de main-d'œuvre a déjà pour effet d'augmenter les salaires. Puis données exclusives que je donne, 96.9.
Ouh, qu'on aime
ça. J'ai-tu mon petit jingle, là?
T'as pas eu, j'ai-tu...
Non! Ça, c'était bizarre.
On a sondé, mais...
Pas ça non plus, mais ça va...
Ou de next épisode de Dr. Dre, j'aimerais bien, là.
avec Jean Leloup? Docteur
avec Dre. Nous, Dre.
Non, mais Jean Leloup qui... Oh, en tout cas... check bien. J'ai ça pas loin tout le temps de next episode. Alors, check, on va y aller avec un peu de Dr. Dre au hasard. Je t'écoute.
Bon, on a sondé nos membres à novembre. Qu'est-ce qu'ils nous disent d'une augmentation de taxes sur la masse salariale ou d'impôts? 72% des PME augmenteraient les salaires et les avantages sociaux.
Ben oui.
72%.
Celles qui peuvent. Si tu forces celles qui peuvent pas, tu sais, t'es dans...
Après, plus de 40% investiraient dans les machineries outillages, donc automatisation. 9% donneraient plus de dons de bienfaisance et 9% augmenteraient leurs dividendes. Oui. On parle pas de multinationales, là. Les PME vont toutes donner à leurs employés. Donc,
les multinationales, anyway, ils envoient ça aux Bahamas puis au Liechtenstein. Fait que, qu'est-ce que tu gagnes, n'importe quoi là-dedans, ça change rien. Les PME, laisse-les tranquilles, laisse-les respirer.
Ouais.
Des règlements.
Cette donnée-là, on l'a pas encore sorti publiquement. J'en ai parlé au ministre du Travail lundi parce que je le rencontrais sur différents sujets. On travaille fort pour les petites entreprises puis qu'il y a des décisions qui soient équilibrées parce que la vraie économie, c'est les petites business. Puis plus on leur met des contraintes d'augmentation des coûts, d'augmentation des taxes, on n'aide personne. On n'aide pas nos collectivités, on n'aide pas nos travailleurs, on s'aide pas nous-mêmes. Mais
les hausses dont tu parles dans le baromètre des affaires, tu sais, à date, c'est avec la CAQ, c'est tout a haussé en termes d'importance dans l'État. Et il y a juste comme si ça n'avait pas de répercussion sur au bout de la ligne le privé, puis qu'il n'y avait pas de création de richesse, tu pouvais juste imprimer de l'argent. Très décevant pour un parti qui se disait le parti de l'économie. En fait, on comprend. Ça a été un camouflet tout le long pour devenir un PQ sans indépendance. Le mini-budget présenté par M. Girard, des réactions spécifiques supplémentaires à nous apporter à notre attention, François-Vincent?
Ben, tu sais, on n'a pas caché le fait qu'on était déçus, là. On a dit qu'on était resté sur notre fin. Puis on avait des craintes que pour une des premières fois, ils parlent de pénurie de main-d'œuvre. Il y a tout le temps eu, là, on va parler de rareté de main-d'œuvre.
Ouais.
Là, on sent qu'il y a une volonté de faire quelque chose. Le problème, c'est qu'on met trop d'accent sur certains secteurs en particulier, là. Il y a 6 secteurs qui sont ciblés, dont l'État. Donc, d'une certaine façon, l'État va venir faire compétition au secteur privé, puis il y a des secteurs qui sont pas priorisés. Il y a l'ingénierie qui l'est, les technologies d'information, puis il y a la construction. En gros, comment je peux faire pour m'aider dans mon projet d'infrastructure?
Mm-hmm.
Qu'est-ce qu'il y a pour l'hôtelier? Qu'est-ce qu'il y a pour le restaurateur? Qu'est-ce qu'il y a pour le garagiste? Qu'est-ce qu'il y a pour l'entreprise manufacturière?
Il y a de plus en plus de ponctions, c'est ça qu'il y a. Parce qu'il faut payer ça, cette machine qui engraisse là. C'est toujours les mêmes. C'est pas compliqué. Puis,
mais Ouais, puis il faut traiter. Puis nous autres, on a dit clairement qu'il fallait plus, qu'il fallait aussi diminuer les obstacles pour les plus petites qui n'ont pas accès à des crédits d'impôt pour pouvoir avoir accès à des travailleurs plus âgés. Qu'on allait continuer à être présent là pour trouver une façon de créer un environnement plus favorable au PME et de faire confiance aux entreprises, peu importe dans quel secteur d'activité économique ils sont, ça va nous assurer d'avoir une économie plus résiliente.
Tu parles.
Je vais te donner un exemple.
Ah, vas-y, excuse.
Je ne veux pas prendre trop de ton temps.
Pas de problème.
En 2008, la dernière grosse crise économique, là, il y a eu moins de pertes d'emplois au Canada parce que on a une économie qui est basée sur la petite entreprise. Mm-hmm. Il y avait Statistique Canada qui avait sorti ça, puis aussi nous autres. Les grandes entreprises, pour éponger le choc, qui ont renvoyé le monde, les petites entreprises, leurs employés, c'est le cœur de leur productivité. Mm-hmm. Puis quand tu as 5 employés, tu peux pas en envoyer un, ça fait mal, tu perds 20% de ta force de production. Donc, pour avoir une économie résiliente, il faut faire confiance aux petites entreprises parce que quand il y a des gros chocs, ils sont là pour protéger des emplois, puis sont là pour redonner à la collectivité.
Tu parles à Éric Girard, tu parles à Pierre Fitzgibbon à l'occasion, tu parles à Jean Boulet. Tu pourras te servir de cette côte-là, si tu veux. J'aimerais ça qu'ils se fassent poser cette question-là. Comment pouvez-vous éviter de faire une coupure drastique dans les impôts des retraités qui veulent retourner sur le marché du travail? Comment pouvez-vous penser que ça n'aurait pas un effet extrêmement bénéfique sur vos propres revenus au gouvernement? Comment vous pouvez vous entêter à pas faire ça drastiquement? Vous faites des annonces, mais c'est pas un changement. Le problème demeure. Ça l'amoindrirait, mais au bout de la ligne, il y a plus de revenus dans les poches du gouvernement si tu fais ça, puis rapidement.
C'est sûr. Puis tu n'as pas quelqu'un qui va retourner au travail pour se couper sa pension ou son fonds de pension. C'est normal, là. T'as tellement raison là-dessus. Puis je prends l'engagement que je vais intégrer ça dans nos recommandations prébudgétaires, mais qu'on va en parler.
On va t'envoyer l'audio après le show.
Oui, ben vous pouvez. Mais non, on n'est pas le. Nous, on va le demander. Il y a d'autres organisations qui vont le demander. Dans le fond, d'être capable d'inciter le retour au travail, c'est en rendant le travail intéressant puis d'aller chercher une rémunération intéressante.
Fortement. Drastique.
Pour le secteur public.
Drastiquement. Mais peu importe, un retraité, il veut retourner sur le marché du travail, on sort dans tout ce qu'il y a de fiscalité qui lui ferait la moindre ponction. On peut en garder un petit peu, mais il n'enverra pas ça au balance. Il va le dépenser ici.
Tellement raison. Moi, j'en avais parlé au ministre Girard il y a pas le budget précédent, l'autre d'avant. On avait fait de nos recommandations parce que la pénurie de main-d'œuvre frappait fort à ce moment-là. On va le refaire aussi. J'ai dit un premier pas qui a été fait pour ramener, dans le fond, les personnes vers le système public. Il y a comme des primes supplémentaires qui ont adopté. Mmh. On va travailler fort pour justement que la fiscalité soit avantageuse, que les personnes travaillent plus longtemps. Puis ça, on fait juste regarder en Ontario, là. L'Ontario, le taux d'activité pour les personnes de plus de 60 ans est plus élevé. On a des personnes qui peuvent contribuer, peut-être pas à temps plein, pour justement aider nos entreprises à prospérer. Puis je n'avais parlé, là, c'est 44% des PME qui refusent des contrats et des ventes à cause du manque de main d'œuvre. Donc, plus on attend, là, plus ça fait mal à notre économie.
On s'entête dans un cercle vicieux parce que la patente grossit. Fait qu'après ça, il faut faire plus de ponctions. Plus de ponctions égale moins pour nourrir, puis etc. Mais s'il n'y a pas de restructuration maintenant, il n'y en aura jamais. François Legault parlait de laisser aller des milliers de postes chez Hydro-Québec. Moi, je pense qu'avec la situation actuelle, on pourrait non seulement faire ça, mais carrément sabrer puis congédier du monde qui deviendrait une force de travail disponible demain matin. Je demande même pas ça, juste des crédits d'impôt pour les retraités. Drastique, ça serait pas drastique, ça serait payant. Ça, il n'y a pas de doute.
Ouais, puis pour faire le ménage, il y a 60% des PME là, qui demandent est-ce qu'on reprenne, qu'on regarde la lourdeur de l'État. Là, je pense qu'on en est parlé il y a deux semaines. Mmh. Donc ça, ça va être quelque chose à prendre en considération aussi.
Ils ne sont pas capables de donner des crédits d'impôt valables aux personnes retraitées, il n'y en aura pas. T'sais. Puis on regarde les quatre partis présents à l'Assemblée nationale, outre le parti qui a Claire Samson comme représentation. Ça a tout le même discours. Personne n'a la moindre ambition de revoir quoi que ce soit de programme ou de dépenses. Fait que...
Peut-être que ça va changer parce que là, on rentre dans un air préélectoral. Là. Le 3 octobre 2022, ça va être les élections provinciales. Donc, nécessairement, ils vont devoir revenir à la population puis avoir un plan en moyen terme pour 4 ans. Puis c'est sûr que nous, on va utiliser cette fenêtre-là pour aller chercher des orientations en court et moyen terme pour le bénéfice des dirigeants de petites entreprises qui dynamise notre économie partout dans les régions.
Qui sont ceux qui payent tout le temps, tout, en gros. Merci, François-Vincent. Merci de les appuyer.
Merci à vous.
Merci de nous parler. Bonne fin de soirée. À bientôt, François